Happy Radio vous emmène au cœur du sport en Dordogne. Oh yeah ! Résultats, infoclub et paroles aux acteurs locaux. C'est la causerie du lundi avec Ronan et Corentin.
Ah, c'est superbe ! Quel pied ! Ah, quel pied !
Eh oui, bonjour à tous, c'est parti pour la causerie du lundi sur Happy Radio. Ronan, comment tu vas aujourd'hui ?
Ça va très bien, bonsoir à toutes et tous.
On espère que le week-end a été bon parce que, justement, on va en parler au programme aujourd'hui, évidemment, le débrief complet du week-end avec tout ce qu'il faut retenir et aussi le chant du supporter comme chaque semaine. Et puis surtout, notre invité du jour. Aujourd'hui, on reçoit un enfant du pays, un bergeracois qui court pour la France, le marathonien Johan Durand, qui nous rejoint pour cette causerie. Et pour finir en beauté, blind test spécial sport et pointu avec Ronan. Donc restez bien avec nous, ça va être une belle heure de radio. C'est parti!
Retour sur les terrains, les scores et les performances du week-end. Voici le débrief dans la causerie du lundi sur Happy Radio.
Des week-ends qui se ressemblent d'ailleurs pour Boulazac au basket. Le BBD vient d'enchaîner une troisième victoire de suite, cette fois contre Lyon-Villeurbanne, cador du championnat de Betclic Elite. Les hommes d'Alexandre Ménard ont livré un véritable combat physique pour gagner la rencontre au Palio, 72-67. Au handball, ça ne va par contre pas fort pour les hommes. Les deux clubs périgourdins de pré-national se sont inclinés ce week-end à la maison. Montpon-Mussidan a perdu 23-30 sa partie contre le leader JA Hill Handball. Chancevinel n'a pas pu éviter la défaite 31-36 face à l'AS en Barésienne. Les deux clubs de Dordogne sont 10e et 9e en bas de tableau. Pas mieux côté féminine, Périgueux vient de perdre très gros. Elles avaient l'occasion de revenir sur leur adversaire du week-end, Cognac, à la 3e position de National 3. Les Périgourdines se sont inclinées 37-29 et se retrouvent 5e à 6 points du podium désormais. Le football n'était pas sur les pelouses, mais en intérieur avec du futsal ce week-end à Bergerac. Le club bergeracois a accueilli ses confrères du club de foot Is l'école, club du nord de la Dordogne. C'était à l'occasion d'un 8e de finale historique d'ailleurs pour l'équipe de Coupe de France U18. Les jeunes périgourdins se sont malheureusement inclinés face au Normandie futsal 2-14. Et ce week-end, ce n'était pas non plus sur les pelouses périgourdines, le rugby, mais sur grand écran. Nous avons vécu le match des Bleus samedi d'une manière assez spéciale. Vous allez le voir, c'est le chant des supporters.
Ils ont vibré, crié, soutenu leur club. On vous a donné la parole avec le chant des supporters sur Happy Radio.
Samedi soir, l'équipe de France de rugby jouait le dernier match du tournoi des 6 nations au Stade de France. Une mission simple pour nos Bleus, battre l'Angleterre et remporter le tournoi. Un grand match donc que l'on pouvait vivre sur grand écran au cinéma de Bergerac. Il projetait la rencontre à l'étonnement de ses spectateurs venus voir le match.
Ouais, ça m'étonnait, c'est la première fois que je vais voir un match de rugby dans une salle de ciné. J'ai suivi un petit peu quelques matchs, mais le fait de savoir que c'était sur grand écran, et que ouais, ça doit être une autre expérience.
Étonnant, je sais pas, je sais que ça se fait, ça s'est déjà fait, donc on profite.
Et dans la salle, les quelques spectateurs donc présents ne voulaient voir qu'une seule chose.
Il y a le crunch, quoi. Donc on veut gagner le grand chelem, mais on veut battre les Anglais.
Le crunch, le fameux crunch, on attend tous les victoires des Français, évidemment.
Le crunch, nom donné au match entre la France et l'Angleterre qui s'affrontent depuis 120 ans. Et pour remporter ce match, donc, il faut des grands joueurs. Un nom est ressorti dans la salle.
C'est toujours Antoine Dupont.
Un joueur à suivre. Comme il a loupé son match en Écosse, on va dire demi-mêlée, quoi. Antoine Dupont, allez.
Antoine Dupont a fait un très bon match, mais c'est sans parler, par exemple, de Louis Biel, Biarré, auteur de 4 essais durant le match. Le Stade de France a vibré. Au bout d'un match sensationnel, les Bleus l'ont emporté de 2 petits points, 48-46, dans les toutes dernières secondes, grâce à Thomas Ramos.
Là, ils se sont battus comme des lions, parce que devant une équipe d'Angleterre qui était quand même très forte. Hein. Donc vraiment, bravo, bravo les Bleus.
Et les spectateurs dans la salle ont évidemment apprécié vivre un match comme celui-là dans une salle de cinéma.
Oui, ça met de l'ambiance, je trouve.
Dommage qu'on aurait aimé que la salle soit pleine.
Mais oui.
Le son, non, c'est une autre expérience. Ouais. Ça change tout, hein, parce que ouais, la vision du jeu, non, ouais, ça change. Je reviendrai si ça se refait à nouveau.
Joueur.
C'est pas touché.
Entraîneur.
Ah mais qu'est-ce qu'il fait lui?
Dirigeant.
C'est pas le moment de faire de la philosophie, hein.
Les acteurs du sport en Dordogne prennent la parole dans la causerie du lundi sur Happy Radio.
Notre invité du jour, il est né à Bergerac, il court pour la France, il est, croyez-moi, bien plus rapide que n'importe lequel d'entre vous. Athlète de haut niveau, champion de France de semi-marathon, membre de l'équipe de France de marathon, Johan Durand, on est ravis de vous avoir sur Happy Radio.
Merci à vous pour l'invitation.
Mais merci, ça fait très plaisir de vous avoir.
Vraiment, c'est important.
Avant de démarrer une interview, j'aimerais quand même passer un petit message parce que un ami et confrère, voilà, qui nous écoute certainement, qui m'a aidé à préparer cette interview, à imaginer deux, trois petites questions, puisqu'il fait des courses à un plus bas niveau, mais il fait des courses et il vous suit, voilà. D'accord. Et donc il m'a aidé
peut-être.
Voilà, je salue Jonathan, voilà, qui est un ami et confrère, donc
et
voilà.
un coureur
voilà, bon. Exactement. Johan, donc avant toute chose, on va parler de l'actualité, de l'actualité chaude, votre actualité à vous toute récente, une troisième place en Bretagne au scratch à Carré, dans la catégorie master pour les championnats de France cross country, c'était il y a un peu plus d'une semaine, donc comment vous l'avez vécu?
Bah, un sentiment mitigé parce que j'avais gagné, j'étais champion de France en titre, j'avais gagné l'année passée à Challans et c'est vrai que j'avais à cœur de défendre mon titre de champion de France. Et du coup, j'ai eu un petit pépin physique la semaine 15 jours avant le championnat de France. Je me suis bloqué le dos bêtement sur une séance de côte, hein, sur une séance de fractionné en côte, je me bloque le dos. Et derrière, ça m'a quand même empêché de m'entraîner pendant 6 jours. Et je pense que je l'ai payé sur cette course-là. Et du coup, il m'a manqué ces 6 jours d'entraînement. J'ai eu la sensation de manquer un peu de rythme et d'être très vite pris à la gorge par mes adversaires sur un parcours assez exigeant qui laissait peu de place à la capacité à vous refaire, à retrouver un second souffle. Il n'y avait jamais de temps mort. Et donc, du coup, malheureusement, j'ai dû... J'ai très vite compris que je pourrais pas gagner et donc après derrière j'arrive à sauver les meubles en prenant cette troisième place au scratch et cette deuxième place dans ma catégorie des master 1, donc ça veut dire c'est ceux qui ont entre 40 et 45 ans, master c'est plus de 40 ans.
Et dire, le deuxième n'était pas dans la même catégorie. Voilà.
Ouais,
vous terminez troisième au classement général.
C'est ça. Je termine dans mon esprit, je termine troisième parce que même s'il est plus âgé que moi, je le considère. Je fais troisième dans mon esprit, mais ouais, c'était pas vraiment ce que j'étais venu chercher. Et je suis quand même content parce que ça reste une médaille et que malgré tout, j'ai trouvé des ressources pour aller chercher cette troisième place parce qu'à un moment donné, c'était même très compliqué et il a vraiment fallu que je bataille et que je me fasse mal pour sauver ça, mais voilà, ça veut dire que l'année prochaine j'ai déjà hâte d'être à l'année prochaine pour essayer de reprendre le titre.
C'est
le sport, hein. C'est vous gagnez le dimanche et le lundi matin vous êtes replongé sur vos objectifs, vous avez à peine le temps de savourer, ouais.
Et justement, donc bon, alors vous l'avez dit, votre préparation a été un peu dérangée par certains pépins physiques, mais comment quand on se prépare à un cross, comment on fait ça pour vous?
Justement, j'ai pas assez juste travaillé le spécifique cross, c'est-à-dire que le spécifique cross, ça a rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Moi, je suis plus quelqu'un qui vient de la route, hein, qui fait du marathon, qui fait du semi, qui fait du 10 km. Donc, ils sont des épreuves réalisées sur du macadam, avec des allures très linéaires, sur des grandes avenues bien larges, bien propres. Vous courez quasiment à la même vitesse du point A au point B. C'est assez simple. Et le cross, c'est tout à fait l'inverse. C'est pas du tout chronométré. C'est pas au chrono, c'est de la lutte homme à homme déjà. Donc il y a pas cette histoire de chrono. C'est il faut battre son adversaire. Et puis après, c'est dans des parcours très sinueux, très boueux, avec des montées, des descentes, des relances, des virages, des appuis qui sont totalement différents, du dévers. Donc en fait, c'est un peu à l'opposé de ce que j'avais l'habitude de faire. Et peut-être que dans mes 2-3 mois de préparation cross là que je visais, parce que le problème c'est que je visais cet objectif là de championnat de France de cross, mais aussi des 10 km qui arrivent dans les semaines à venir, donc peut-être que j'ai peut-être un peu trop orienté mon entraînement sur la route et pas assez sur le cross pour être prêt à batailler justement dans ces endroits qui sont difficiles, à savoir les montées, les virages, les relances, les appuis qui glissent. Vous avez des pointes de 15 mm sous les chaussures. C'est totalement différent que quand vous êtes sur la route avec des chaussures à plaques de carbone qui vous propulsent toutes seules, quoi.
Les sensations sont différentes.
Exactement, ouais.
Yoann Durand, vous êtes donc natif de Bergerac. On le disait, 40 ans plus tard, vous y êtes toujours. Alors, vous bougez évidemment beaucoup donc, pour les courses, mais qu'est-ce que ça vous a apporté d'être dans une ville comme Bergerac ? Qu'est-ce que ça, pour vous, il y a eu quelque chose de différent, par exemple, d'athlète en grande ville ou pas ?
Bah, moi, ce que ça m'apporte, c'est la quiétude dans mon quotidien, dans mon entraînement. Pour s'entraîner, on est pas mal à Bergerac parce que on a maintenant une belle voie verte goudronnée le long de la Dordogne où je peux faire mes footings et mes séances de fractionner. On a des bois si on veut travailler un peu plus justement le spécifique cross ou trail avec beaucoup de chemins, de singles, des choses comme ça pour travailler ça. Et puis après, moi, c'est surtout que je suis né ici, que mes parents sont, toute ma famille est originaire d'ici et que j'ai toujours vécu ici. Donc très vite, j'ai compris que pour mon équilibre personnel, j'ai toujours privilégié le fait de rester ici avec mon coach, avec mes amis, avec ma famille, que partir même à 16 ans. J'avais eu l'opportunité d'aller, comme tout le monde, au sport études à Talence. C'était le premier sport-études qui m'a proposé de les rejoindre, mais j'ai vite compris que aller à Talence, aller vivre à Bordeaux et tout, c'était pas fait pour moi, le gars de la campagne, donc j'ai préféré rester ici. J'avais l'opportunité aussi à l'université de pouvoir aller aux États-Unis et vivre l'aventure américaine dans des universités américaines et de courir pour eux. C'est pareil, j'avais préféré rester sur Bergerac. Donc non, ouais, j'ai toujours trouvé mon confort et un peu mon cocon ici où c'est quand même on est quand même bien à Bergerac, quoi.
Avec un bel air.
Avec c'est pareil, il y avait l'INSEP à Paris à un moment donné, mais à part le bois de Vincennes, après c'est très compliqué pour s'entraîner, c'est la région parisienne en plus. Effectivement, je suis pas sûr que l'air de l'INSEP soit très bon à respirer par rapport à chez nous, quoi.
Ça, c'est le jeu à Montbazillac. En parlant de Bergerac, c'est ici que vous avez soulevé la flamme olympique en 2024 pour les Jeux de Paris. Justement, ce moment de sa vie, je pense qu'on ne le vivra qu'une fois. Comme quand on est un athlète, voilà, on sait que les Jeux, ça revient assez rarement dans les mêmes villes. Qu'est-ce que ça a été pour vous de soulever, donc en plus, comme vous le disiez, dans vos terres natales, cette flamme olympique?
Je remercie le département de la Dordogne de m'avoir proposé. Hein. C'est eux qui m'ont permis de pouvoir porter la flamme. Alors, c'était une grande fête du sport français, et les Jeux Olympiques, quand on est athlète de haut niveau, c'est quand même le Graal, et le fait de pouvoir porter la flamme et en plus dans sa ville, c'était quelque chose d'assez magique. Donc ouais, j'en garde un grand souvenir, et voilà, c'était une, et puis surtout, enfin, moi j'avais l'impression de vivre, enfin, de, c'est plutôt dans le regard des gens autour de moi que je voyais de la fierté dans mes parents ou dans la famille ou des amis qui étaient venus spécifiquement sur mon point pour me prendre en photo avec la torche, regarder et tout le passage. Et là, pardon, j'ai vu beaucoup de fierté dans leur truc, même si pour moi, effectivement, ça représentait quelque chose. J'ai l'impression que c'était plus aussi pour tout ce qu'il y a autour.
Oui. Ouais. Et puis j'imagine que sur le moment, vous êtes pris où faut être. On sait que c'était assez
c'était
timé.
Millimétré. Hein.
Voilà, c'était millimétré.
J'essaie de courir le moins vite possible.
Voilà, j'imagine que sur le moment, en plus, on fait attention et que la fierté, en tout cas, l'émotion vient, j'imagine, après sur un moment comme ça. Mais oui, c'est très millimétré.
Ah, c'est court. Hein. Je sais même pas si ça a duré 20 secondes. Hein.
Un court donc, instant. Mais ouais, ouais. Vous l'avez porté. C'est ça principal. Yoann Durand, je le disais, donc vous avez 40 ans désormais. Vous avez connu quelques pépins physiques ces derniers temps. Comment justement vous vous sentez physiquement? Est-ce que vous vous sentez capable d'aller toujours plus loin?
La motivation, elle est là. Après, des fois, le matin, quand je me lève, je me dis que
le corps suit un peu moins.
Le corps suit un peu moins. Ouais, j'ai un peu plus de mal à me lever. Mais non, la motivation est là, l'envie est là. Je prends toujours du plaisir dans ma pratique sportive, hein, qui est pas évidente. Hein. La course à pied, c'est un sport un peu ingrat parce que tu joues au foot, tu joues au rugby, tu joues au basket, mais tu joues pas à la course. Tu cours contre toi-même et contre un chrono. Donc, tu prends du plaisir uniquement dans la performance et dans le dépassement de soi. Donc, il faut trouver ce truc-là qui vous fait avancer. Et moi, je l'ai encore, cette flamme-là qui me pousse le matin à mettre mes chaussures et à m'entraîner. Mais après, ouais, effectivement, le plus compliqué, c'est de gérer son organisme avec 26 ans de sport de haut niveau derrière soi. Et effectivement, quand je regarde le nombre de kilomètres que j'ai parcouru depuis le début de ma carrière, je dois être à plus de 100 000 kilomètres, je pense, honnêtement, couru. Donc, je me dis, ouais, c'est normal d'avoir des petites tensions au mollet, des petites tensions au tendon d'Achille, des petites tensions au niveau du bassin et tout. Mais malgré tout, voilà, j'essaye de les soigner le mieux possible pour garder justement cette envie de toujours me dépasser et puis me challenger pour faire des chronos encore très honorables. J'essaye de me battre pour ça, ouais.
Quand vous dites vous challenger, est-ce que battre les 2h09, votre record personnel sur marathon, c'est...
Ouais, c'est dans un coin de ma tête. Je pense que c'est l'un des plus... ça va être dur à aller chercher. Mais effectivement, c'est un de mes objectifs de mes saisons. Et puis, ça va être aussi progressivement d'aller découvrir un univers que je connais pas du tout et auquel j'ai jamais vraiment participé, c'est le trail. Moi, j'ai commencé par le cross. Après, j'ai fait la piste comme tout athlète. Après, je me suis orienté sur la route. Et j'ai envie d'aller découvrir cet univers de la montagne, ses trails et tout ça. Donc c'est un univers assez différent de la course à pied et qui commence à m'attirer de plus en plus, ouais.
Merci Johan Durand d'avoir été avec nous, même si vous allez rester pour la suite, Corentin.
Tout à fait, ce sera avec moi. Merci beaucoup d'avoir eu la patience d'avoir répondu aux questions de Durand, parce qu'il faut la garder cette patience. On va arriver au blind test. Juste avant ça, on marque une petite pause. On se retrouve juste après. C'est bon pour vous?
C'est parfait pour moi.
J'espère que c'est bon pour nos auditeurs. À tout de suite.
On appuie sur pause et on joue. Voici l'arrêt de jeu dans la causerie du lundi sur Happy Radio.
Rebonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Happy Radio. On est toujours avec Johan Durand, athlète, et surtout avec Ronan, bien sûr.
Oui. Pas athlète, mais...
Bientôt c'est une question de semaine.
C'est ça.
Bon, c'est le moment de jouer, c'est l'heure du blind test du jour. Je rappelle les règles, donc vous êtes en concurrence avec tous ceux qui sont venus...
Passer un moment.
Ouais, c'est
même
ça,
avec
exactement.
Votre entraîneur, le dernier.
Il avait fait combien, lui?
Il avait fait...
C'était la moitié.
5,5.
Voilà, ouais, c'était 5,5. Ah ouais.
On avait donné
premier,
un demi-point.
Voilà. Demi-point.
Exactement, donc il y a 5 questions blind test donc dans le casque, que nos auditeurs vont pouvoir entendre avec nous, et 3 questions pointues que Ronan vous avait prévues, qui sont un peu plus hard.
Voilà. Surtout que Christophe Lenocher, votre entraîneur, nous a dit que vous aimiez et que vous étiez fort.
C'est important de le préciser pour les auditeurs.
Surtout
oui.
Que je fasse moins que lui. Ouais.
Il a peut-être ça. C'est peut-être ça. Ça n'aurait pas dû se faire avoir.
Tant pis, c'est
non,
comme
mais
ça.
On préfère le dire à nos auditeurs. Si c'est compliqué, c'est parce que l'entraîneur a dit auparavant voilà. Qu'on avait le droit de faire compliqué.
On a pris ça pour acquis.
Bon. Premier extrait. Là, je vais un peu m'aider avec Ronan. C'est grâce à lui que j'ai pris cet extrait. De quel joueur français de tennis s'agit-il? Alors, est-ce que Ronan, tu pourrais nous donner des indices peut-être?
Est-ce qu'il y en a un qui vaut bien quand même ou pas?
Bah, je crois que Corentin Moutet fait du rap. Non,
même pas besoin d'indices.
Bravo, bravo. Il n'était pas sûr que vous l'ayez.
J'avais un indice, c'était son service à la cuillère, qui est assez connu, notre français, mais. Pas besoin,
pas besoin d'indice, bravo.
Mais bon, je l'avais jamais entendu bon son rap. Je savais que j'avais entendu dire qu'il s'y était mis, mais je...
Bah voilà, bon,
Bon bah c'est très bien et ça peut permettre à nos auditeurs de découvrir que...
je suis pas
non, mais voilà, ce joueur de tennis fait du rap. Oui, il est très sympathique, donc allez écouter ça, c'est très sympa. Ouais. Deuxième extrait, de quel joueur maintenant pouvons-nous entendre la plainte à l'arbitre?
Voilà. Non, j'ai pas touché.
Alors...
Alors, il me semble que c'est Brendao à l'époque où il jouait à Saint-Étienne.
Magnifique.
À Marseille.
C'était à Marseille. Bon, on va la prendre quand même, hein, parce que c'était pas la question. Oui, c'est bien Brendao. J'ai pas touché. Ouais. Extrait numéro 3. Bah, de quel pilote parle ce commentateur?
Il se met à l'intérieur, il fait des récupérations d'énergie pour essayer de sortir de la parabolique. Elle est presque là, cette victoire. Accélère! Oui, il va aller la chercher! Ne lâche pas! La victoire!
Alors.
Ouais, je l'ai en plus.
Allez.
Attends.
Non, c'est pas plus facile. C'est pas plus facile.
Il faut que ça revienne.
En Formule 1.
Ouais, évidemment. C'est.
C'était un français.
Oui. Je vais te préciser, c'est de la Formule 1.
Oui, oui, oui.
Il nous faut une réponse.
Tic-tac.
J'y vais, mais je suis pas sûr. Romain Grosjean.
Et non. C'est l'autre. C'est Pierre Gasly.
Pierre Gasly. Je voulais dire Pierre Gasly au début et j'ai. Non.
C'était pas le plus facile.
Non.
Dommage. Deux points.
Un extrait très connu, tout le monde connaît cet extrait. Accélère.
Ah oui,
accélère.
J'ai pas osé, alors que c'est Pierre Gasly qui m'est sorti en premier. Maintenant, je vais. Mais
en 2020, voilà, il avait gagné. C'était le premier Français depuis 96 ouais. à avoir gagné.
Depuis Jean Alési.
Tout à fait.
Course, non, c'était. Florent Pagny, exactement.
Quatrième extrait. Quel match pouvons-nous entendre tout de suite?
Pour Ribéry, qui va arriver devant Casillas.
France-Espagne 2006, huitième de finale.
C'est
on
rapide,
perd 1-0, Ribéry dribble le gardien, un partout.
Il y a tout le match.
75e, Patrick Vieira 2-1, Zidane qui les crucifie 3-1.
Oui, parce qu'il faut
vous dire. Thierry Gilardi,
vous avez fait du football.
J'ai fait du foot.
On sent que la passion est restée.
C'est vrai qu'on a choisi quelques extraits en rapport. Bon, voilà.
Bon, 3 points. C'est pas
3
pas.
Points, c'est déjà pas mal quand même. Dernier extrait. Quel fameux entraîneur pouvons-nous entendre s'énerver maintenant?
Arrête. En plus, il parle à Fabien Galtier. Christophe Urios.
Bah évidemment.
Il a parlé à Fabien Galtier, notre sélectionneur. Et il lui a même mis une petite niquette.
Ah, il connaît tout l'extrait.
Oui, et on l'a revu il n'y a pas longtemps pour faire cette chronique. Effectivement, il lui met une petite.
Et Fabien ne bouge pas.
Non. Évidemment, Christophe Urios, extrait légendaire. Il y en a plein d'autres. Ouais. On aurait pu prendre les merguez.
Christophe Urios, je crois, n'a que voilà. Les
GPS. Vous l'avez, oui, GPS aussi.
On aurait pu prendre plein d'autres choses.
Il est dans l'un de nos jingles. Enfin, bon, il est partout, Christophe Urios, avec ouais. Des extraits mémorables.
C'était le blind test. Bon, c'est l'heure de souffler 2 secondes, mais pas trop longemps, parce que c'est maintenant à Ronan de vous avoir entre ses mains.
Là, c'est un peu plus.
Allez, Ronan.
Pour l'instant, 4 bonnes réponses. C'est déjà pas mal. Et évidemment, on cumule les points ensemble. L'année dernière, le marathon de Londres a battu le record du monde du nombre d'arrivants à 500 près. Oui, j'ai été très coriace. Là, je l'ai dit.
500 près.
Combien de personnes ont fini ce marathon?
Moi, j'ai pas les réponses, donc. À chaque fois, je me dis, il est méchant.
J'ai été très méchant, là.
Il est méchant, parce
que. Je pense que c'est 50 500.
Et fallait. Ah, c'était plus. Même si j'avais dit à 1000 près, on est à 56 640 arrivants, le record du monde. Donc,
Lui as fait aucun cas.
Ah ouais, non, là, c'est dur.
Il faut savoir que Paris, l'année dernière, a battu son propre record avec 55 499 arrivants. Voilà. Mais,
56 000, bon, je le saurai pour la prochaine fois.
Ouais, donc, on était quand même, un peu plus. Bon, pas de points sur celle-là, mais peut-être sur la prochaine. Parlons course sur piste, donc, avec l'athlète norvégien, Jacob Ingebrigtsen.
C'est pas facile à dire.
Double champion olympique. En 2023, il bat le record du monde sur 2000 mètres. À 20 secondes près, quel était son chrono?
À 20 secondes près.
Je crois que c'est 4,50. 52, allez, 4,52.
On est dans les 20 secondes près. J'avais hésité à mettre 15, mais on y était quand même, puisqu'il est à 4 minutes 43 secondes.
Ouais, il m'a surpris.
Record du monde à Bruxelles.
À Bruxelles.
Il battait donc le record de Hicham Elguerouj à 4 minutes et 44 secondes.
D'accord.
Établi en 99, mais voilà. Mais on est dans la fourchette. Ouais. Donc ça passe.
C'est bon, ça passe.
5 points au total. Et donc dernière pour essayer de marquer les 6 points. Depuis 2006 et la création des World Marathon Majors, les plus gros marathons du monde, il y en a 7 aujourd'hui. Combien de fois le record du monde en termes de chrono donc, a-t-il été battu à Berlin?
Ah, à Berlin?
Ah, c'est le point pour être plus fort que.
Là, ouais, je dirais. Berlin, ils l'ont battu un paquet de fois quand même.
Il y a plus depuis 2006.
Depuis 2006, je dirais aller homme ou femme, les deux.
Homme, pardon. Homme. J'ai pas précisé, oui. Homme.
Ok. Je dirais aller quatre fois.
Ah, c'était plus. plus. Quatre fois, il y a eu par exemple Chicago, il y a eu Boston par exemple qui a été quatre fois. Il y a eu Londres où les records du monde ont été battus quatre fois. À Berlin, sept fois depuis 2006. Notamment Eliud Kipchoge qui a battu son propre record même en 2018 et 2022. Voilà.
C'est parfait.
Bon, alors 5 sur 8.
5 sur 8.
Un demi-point en dessous de.
Après, on
de
vous a demandé
entraîneur.
D'être.
Ah ouais, là, c'était ah coriace. Oui.
Mais on a été coriace. C'est pas mal. Non, c'est pas mal. On a été coriace et c'est franchement pas mal.
Merci beaucoup d'avoir participé à nos plaisir. Petits jeux. C'est l'heure de bah, du coup, de siffler le final, en fait, tout simplement.
Simplement.
Allez. Et voilà, on arrive au bout de l'émission. C'est l'heure du coup de sifflet final, effectivement. Merci, Johan Durand, d'être venu partager tout ça avec nous. On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, il me semble.
Oui, tout à fait, ouais, sur Instagram, Facebook. Donc ouais, pas mal de... j'essaye de mettre pas mal de contenu pour tous les néo-pratiquants de la course à pied, voilà, d'essayer de les accompagner, tous ces nouveaux coureurs, parce que la course à pied est un sport qui est un petit peu à la mode. Donc voilà, les gens ont pris conscience que le sport, c'était la santé, donc beaucoup se mettent à courir. Et donc j'essaye de les accompagner en donnant quelques conseils sur mes réseaux sociaux. Ouais, donc n'hésitez pas à y aller.
Merci beaucoup d'avoir partagé cette passion. Merci Ronan.
Mais merci à toi aussi et merci à nos auditeurs évidemment. De
on
nous
rappelle
avoir
que cette causerie est déjà disponible sur apiradio.fr
en podcast.
En podcast pour qu'on puisse la réécouter autant de fois qu'on veut. Bonne soirée à tous et à très vite.
Bonne soirée.
À très vite.